Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Cinq émissions spéciales cette semaine sur le thème justice et justiciers aux quatre coins du monde. Ils font, défendent, veulent ou réclament la justice pour eux ou pour d'autres. Aujourd'hui, on commence au Rwanda.
Le génocide, c'est devenu un événement éternel.
On est dans un café qui s'appelle Chez Lando. Vous êtes très élégant, vous avez une chemise mais impeccable, deux téléphones portables. Et autour du cou, on ne la voit pas tout de suite sous la chemise chic, mais vous portez une chaîne en or avec une étoile de David en or.
C'est un cadeau. Une juive de France qui a visité ma maison Shalom House.
Vous avez une maison qui s'appelle Shalom House.
Shalom House. C'est là où j'accueille des gens pour enseigner la Shoah aux Rwandais. Normalement, vraiment, les gens ne savent pas assez sur la Shoah et l'histoire, quoi. Ils savent tout simplement qu'il y a des Juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, tués par les nazis. C'est là où ils s'arrêtent, quoi.
L'homme ne correspond pas, mais alors vraiment pas, à l'image que peut suggérer le mot « rescapé du génocide ». Il est grand, beau, élégant, extrêmement soigné dans sa mise et comme beaucoup de Rwandais, il paraît 10 ou 15 ans de moins que son âge. C'est un businessman accompli au volant d'une Mercedes gris métallisée. Il vient d'une famille aisée de Boutaré, la ville universitaire dans le sud du pays. Son père travaillait pour l'ONU. Au cou, Thierry Sebaganois, catholique pratiquant, porte pourtant une étoile jaune avec fierté. Il voit l'État d'Israël une admiration qui parle autant de sa condition et de son propre pays, qui se reconstruit à marche forcée, que de l'État juif lui-même. Sur ses larges épaules, il porte aussi le poids de toutes les victimes du génocide rwandais. Sa vie est consacrée à se rendre digne de leur mort, à les représenter, à les rendre vivants et à les ressusciter par sa parole, sa conduite et son enseignement. Il nous raconte donc tout de suite la rencontre entre la Shoah et le génocide rwandais, comment ces deux événements peuvent dialoguer dans l'éternité. Récemment, comme vous l'entendrez, Thierry a dû fermer sa Shalom House, son petit musée. Il ne demande pas d'aide, mais si on lui en proposait, j'imagine qu'il ne la refuserait pas. Sachez que cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 avril 2014 à l'occasion de la commémoration du génocide rwandais. Vous étiez où, vous, en 94?
À Boutaré.
Vous étiez à Boutaré?
Chez moi, dans la maison de famille. Moi, j'ai parvenu quand même de fuir. Je voyais que les choses vont tourner mal. Après le crash de l'avion du président, ils ont immédiatement installé le couvre-feu. Personne n'avait pas le droit de sortir. À côté de la maison, on a trouvé les policiers qui sont venus. Ils ont pris mon grand frère, l'aîné de la famille s'appelait Patrice, et un autre voisin qui s'appelait Adrien. On l'a amené pour l'emprisonner. Donc on l'accusait qu'ils étaient joyeux, qu'ils manifestaient leur joie de la mort du président, ce qui n'était pas du tout vrai. Mais on l'a amené, c'est à partir de là qu'on voyait quand même que les choses ne sont pas claires. Et puis, on a trouvé le corps. Un jeune garçon, il avait environ 7 ans de plus de moi. On l'a enlevé chez lui aussi, On l'a amené dans le camp militaire d'Ongoma, mais on l'a tué, mais d'une façon vraiment barbare. On l'a coupé partout, il y avait des poignards partout. On l'avait coupé le nez, on l'avait enlevé les yeux. Alors quand on est allé le récupérer, c'est là qu'on a vu quand même les choses qui sont graves. Alors là, il disait, non, ça c'était un exemple. Vous verrez, ce sont des amis de l'enfance.
Qui disaient, vous allez voir.
Et vous allez voir. C'est un simple exemple. Ce sont des voisins, des amis, qu'on a partagé tout ensemble. Moi, entre-temps, j'avais déjà parti pour chercher le chemin où on devrait utiliser pour s'esquiver, donc fuir. Ils m'ont mandaté d'aller chercher le chemin. Je suis allé, et puis de retour, c'est là que on disait ne rentrez pas chez toi.
Ne rentrez pas chez vous.
C'est une femme zaïroise qui était voisine, qui m'a raconté comment on venait de couper la tête de ma mère. Mon père, on venait, il était vieux aussi, et on venait de lui fusillader les militaires. Et les autres, ce sont des inéramoins et les milices, donc qui ont attaqué la maison. À la maison, à part mon père qu'on a fusillé, les autres, on les a coupés. Il y avait mon grand frère, il y avait ma jumelle, il y avait mes deux petites sœurs, il y avait un cousin, mes deux grands-mères qui étaient à la maison. Ils croyaient que le chef de gendarmerie Boutaré, il venait du même endroit que mon père. Il croyait qu'alors, on est sauvé parce qu'on se connaît avec le commandant. Mais ce qui était le contraire, il n'a pas sauvé. Là où il n'y a pas la valeur de l'homme, d'un être humain, tous les coups sont permis parce qu'il n'y a pas la valeur. Je me rappelle qu'il y en a certains qui ont venu tuer chez nous, un certain Alphonse, qui a tué ma petite sœur, la cadette. Son père était veilleur quelque part. Et puis, il est mort. Il n'avait pas le cercueil. Il disait qu'ils n'ont pas même les moyens pour acheter le cercueil. Je me rappelle que mon père l'a dit, arrête, j'arrive. Il avait un petit coffre-fort dans la maison, je me rappelle, dans sa chambre. Puis il a amené de l'argent. Il les a payés, tout ça. Mais, pendant le génocide, il est parmi les premiers qui est venu pour tuer chez nous. Et je me rappelle qu'Alphonse, sa mère l'a dit, vraiment, tu oses de tuer l'enfant de Joseph. T'as pas honte. Et tu te rappelles ce qu'il nous a fait autant. À l'université où j'ai fait l'ingénieur en électromécanique, option électronique, et puis après j'ai fait l'informatique. Je devrais choisir, soit je reste dans le génocide, mais j'avancerai jamais. Génocide, c'est notre passé, c'est la souffrance des rescapés, c'est la barbarie, c'est l'inhumanisme. C'est la haine, c'est l'extermination. Je savais que le génocide a été consommé. Je suis le perdant, mais je ne devrais pas perdre tout. Je perds les gens, je perds mon enfance, je perds ma famille, je perds mes valeurs. Mais je ne devrais pas aussi perdre mes caractères. Je devrais te montrer que je ne pense pas comme eux. Je suis l'autre. Je suis humain malgré l'histoire. Lorsqu'en 1996, j'aimais une belle fille au monde, alors là, il y avait la raison de vivre pour transmettre ce que j'ai reçu aussi. Il y avait la vie. C'est un grand combat, mais que tu amènes en même temps, mais qui demande une force, j'aimerais dire surnaturelle, mais qui montre quand même que l'homme est capable. On est capable de pousser loin, de faire l'impossible. Par exemple, de ne pas garder la haine, de ne pas penser la vengeance, parce que se venger, c'est une façon de se salir. Il y a des choses que tu ne devrais pas toucher, que tu ne devrais pas faire, pour ne pas avoir la même connotation, avoir le même nom que les bourreaux. Aussi longtemps que tu es rescapé, normalement, il y a la souffrance, oui, bien évidemment, mais aussi il y a l'existence, la résistance, la survie, la lutte pour être lutte. Tu dois être exemple, tu dois être propre, tu dois être le premier. Tu dois être digne, être toujours exemplaire, être toujours quelqu'un de valeur. Nous n'accepterons pas d'être le dernier. Non, non, on n'a pas le droit d'échouer. C'est nous surtout, c'est nous qui ne devons pas être échoués. Les autres peuvent le faire. Nous, nous n'avons aucun droit, aucun droit.
Réussir, c'est une forme de vengeance.
Absolument. L'échec, tu devrais mourir bien avant. Tu dois faire vivre les victimes. J'incarnais mon père. Et les gens me le disaient même. Comment je parle, comment je marche, comment j'aime faire des blagues. Il aimait. Il aimait les gens, il aimait partager. La bière, la joie. Hein. Il y avait toujours une chaleur quelque part, partout où il est. Alors là, si je fais le contraire normalement, je n'incarne pas Okuzawa. Je suis l'autre, qui n'est pas lui, qui ne le sera jamais, si longtemps que je commets, par exemple, et la tuerie, disons, la vengeance. Immédiatement, je suis l'autre. Je dois être saint. Je dois être lui. Ça me montre justement que aussi longtemps que je suis, il n'est pas mort. Il est là. Ils sont là. Tu vois. Et les gens ne meurent pas. Ce sont les barbaries qui pensent que les gens meurent. J'ai commencé aussi alors de m'intéresser sur la Shoah.
Et comment c'est arrivé de s'intéresser à la Shoah?
C'est en 90 que j'ai vu le film de Au nom de tous les miens, de Martin Gray. C'est là que ça m'a ouvert les yeux.
Vous êtes intéressé au génocide, à la Shoah, avant le génocide rwandais?
En 1990. Oui, mais loin de là, je ne savais pas que c'est la même chose qui m'attendait en 1994. C'est un peu drôle. Je me sentais la souffrance et je me disais pourquoi les gens tuent les autres comme ça. Je ne pouvais pas avoir une comparaison. Mes parents ont vécu dans les années 59-60. Ils ne parvenaient pas de nous raconter.
C'était déjà des premiers massacres de Tutsi.
Oui, voilà. Ils ne parlaient pas comment il a perdu ses frères. Ils étaient au nombre de 14 enfants. Mais il a resté avec une seule fille, sa petite sœur. C'est à partir de là que je me suis intéressé sur la Shoah. Quand tu comprends la souffrance de l'autre, tu comprendras le tien facilement. Je ne parvenais pas, par exemple, de parler ma souffrance, mais quand je parle l'autre, je le parle comme c'est mon histoire, parce que je le sens. Quand je parle la Shoah, je le parle sans hésitation, parce que je le vis, je le comprends, je le sens. Ça m'a montré justement comment vraiment il y a un lien. Je pense que c'est à partir de là alors que je me suis engagé. Et avec le temps, j'enseignais des gens. J'amenais les étudiants de l'université, surtout des rescapés, qui formaient le groupe des étudiants rescapés du génocide. Je voulais toucher les gens qui sont encore jeunes, mais qui peuvent aussi transmettre le message. J'appelais aussi les jeunes qui ont des parents bourreaux.
Les enfants des bourreaux.
Des bourreaux. Mais quand je parlais le génocide des Tutsis, immédiatement, je les touche indirectement. Hein. Mais quand je parlais la Shoah, ils parvenaient aussi de pouvoir s'exprimer. Mais parce qu'il n'y a pas la culpabilité immédiate. Ils parvenaient de manifester leurs émotions. C'était le moment dur, mais qui était important pour être ensemble. En 2004, normalement, que je suis parti en Israël, j'ai reçu un coup de fil, il me disait « Qu'est-ce que tu penses si ton rêve est de visiter l'Israël, de connaître l'État d'Israël et la Shoah ?» Je disais « Oui, c'est un rêve, mais je ne sais pas si c'est possible de le réaliser. » Et à ce moment-là, Yad Vashem avait organisé une visite des rescapés. C'est la première rencontre que j'ai faite. Je me sentais soulagé de rencontrer d'autres rescapés comme moi. Je me rappelle, il s'appelle Israël, Benjamin Israël, quelque chose comme ça. Et il m'a pris la main et il disait à Thierry, il est rescapé comme moi. Il peut comprendre la souffrance des Juifs comme je le comprends. J'adore l'État d'Israël. Je suis beaucoup des infos. Je connais l'histoire de Ben Gurion, Yitzhak Rabin. Je connaissais Ariel Sharon.
Ariel Sharon.
Oui, je suivais. Ils ont un modèle pour les Rouennais.
Ils sont un modèle.
Pour les Rwandais. Et Gaspar.
Oui, tu es mort.
Non, non. Il est causé dans le monde.
Qu'est-ce qu'il a dit, Gaspar?
Gaspar? Non. Justement, bon, il est déjà à la maison.
C'est un copain?
Non, c'est... C'est le gouvernant de chez moi.
Le gouvernant?
Oh, de chez moi. Ouais.
Ah, vous avez un gouvernant?
Ouais, il y a un autre terme ici qu'on utilise, boy. Mais il s'occupe de chez moi. Et on peut passer.
Alors, allons-y.
C'est ma bagnole?
C'est celle-ci? D'accord. Très très belle Mercedes. Vous avez une belle voiture, hein?
Merci. Là.
Ah, mais il lui
on
manque un rétroviseur. Les deux rétroviseurs, on vous a piqué les deux?
Oui. Ce sont les infos faites de la ville et qui les volent et puis qui les revend. Je connais ceux qui m'ont volé. J'avais pas le temps de les suivre, mais je les connais. Voilà, c'est du quartier Remera. Ici. En fait, il y a des nouveaux quartiers qu'on a construits après le génocide. Hein. Il me semble que je me sens fatigué. Hein. Je sais comment je travaille aujourd'hui. Moi, je suis agent de marketing dans une société qui vend des produits pétroliers.
Un immeuble en construction, juste de l'autre côté de la route.
Voilà. Il y a presque tout ici. Si tu regardes, il y a en face, c'est une église pentecôtiste. qui s'appelle Restoration Church.
Ah oui, église de la restauration, ouais.
Il y a l'église catholique ici en bas. De l'autre côté, il y a le stade national. Puis il y a des marchés à côté. Il y a des bars derrière. Moi, j'aime là où il y a des gens qui passent partout, tout le temps. Moi, je le vois dans un cadre de sécurité. Tu peux pas avoir quelqu'un qui t'attaque, par exemple.
La sécurité, c'est important.
C'est important pour des rescapés. Je suis pas caché. Je vis où tout le monde passe tout le temps. Où il y a les gens qui passent tout le temps. Le génocide a eu lieu en plein air. Tout le monde connaissait tout le monde.
On l'a bien aimé.
Voilà.
La télé est allumée. Canal Plus, non. Canal Sat, même.
Gaspard. Gaspard. À quoi il m'en a coupé dans la cuisine de la maison.
Un monsieur qui est pieds nus, qui va nettoyer la table en plastique verte, avec quatre chaises en plastique autour, devant une énorme télé. Thierry décroche un cadre au mur pour me montrer. Qu'est-ce que c'est?
C'est l'étoile jaune que j'ai de chez moi. La personne qui possédait cette étoile s'appelle Malvina Soto. Née bloc, juive d'origine française. Quelque chose de grande valeur que j'ai.
C'est quoi les photos que vous avez là?
Mes deux enfants. La fille vit en Europe avec sa maman. L'autre est ici.
Et le petit garçon, il a quel âge maintenant?
7 ans. Je pensais qu'il se pose beaucoup de questions. C'est comme s'il se demandait d'où je viens. Je devrais le montrer. Mais pas parler de génocide. Je devrais aussi protéger mon enfant. Dire que les gens venaient et puis ils ont coupé la tête et de sa grand-mère. Ils sont coupés. Je ne pouvais pas. Il n'est pas au niveau de le comprendre.
C'est un chemin.
Et un chemin, oui. On n'est pas là pour garder le silence.
Et dans le salon, là, il y a un drapeau.
C'est le drapeau d'Israël. J'ai acheté quand j'étais à l'Israël en 2005, je pense. Normalement, c'était dans mon salon où j'avais optimisé le Shalom House dont je vous ai parlé.
Ah, mais le Shalom House, c'est le musée que vous aviez à Boutaré avant d'arriver à Kigali.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qu'il y avait comme dans ce musée?
Ce sont des tableaux qui relatent l'histoire de la Shoah. C'était une trentaine de tableaux. Donc, je l'utilisais pour enseigner la Shoah. Je rêvais de faire un petit musée là-dessus, qui permet aux gens d'apprendre l'histoire sur les différents génocides. J'ai travaillé au moins 6 ans.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez dû quitter cette maison?
La maison, je ne parvenais pas de supporter le coût, parce que le propriétaire revenait d'abord doubler le loyer. Et à ce moment-là, mes activités qui m'ont poussé d'organiser tout ça, où je gagnais de l'argent que j'utilisais, étaient un peu vraiment dans les difficultés. Je ne pouvais pas alors supporter. Mes tableaux que j'utilisais actuellement, j'ai un ami qui s'appelle Albert. Lui aussi qui s'intéressait beaucoup sur la Shoah. C'est lui qui les a maintenant. Parce que je ne pouvais pas abandonner à 100%.
Personne vous a aidé? On ne vous a pas proposé de l'argent pour vous aider?
Personne. Je n'avais pas aussi demandé. I'm sorry.
Vous avez les larmes aux yeux.
Ah oui. Ça m'a touché. Je ne le voulais pas. Je n'avais pas une autre solution. Personne ne peut pas sentir ce que je sentais. Mais je pense que j'étais trop attaché à mon projet. À la minute même dont je te parle. Mais je me suis retrouvé dans des conditions où je devrais changer la vie. Je dois travailler.
Yarangaburiye igihe ibibazo byari byinshi wambereye Imana igihe nta hepfo nta hirya nari mfite waranyeretse imbere Imana kwiruta inshuti zose nizo twitiza amagara ikimenyetso nakuka yagitangiye Kwimana mbabwira Nimana imbabazi Nimana y'urukundo Imana itagiye muka
Niyo waba ufite ibibazo byinshi bikurenze Niyo waba wibana ukabara uwo waganyira n'uwo wabwira ariko igihe cyose Imana ibikuri hafi
Les pieds sur terre, quartier d'été, justice et justicier. Aujourd'hui, c'était la Shalom House de Thierry Sebaganois. Merci à Patrick de Saint-Exupéry, à Lord de Vulpian et bien sûr à Thierry lui-même. C'était un reportage signé Sonia Kronlund et réalisé par Alexandra Malka avec un coup de main de Clémence Gross pour cette rediffusion spéciale quartier d'été.
Ikimenyetso nakuka yagitangiye igorogota